RMC, face aux grandes gueules.
Il se retrouve face aux grandes gueules parce que la semaine dernière, au 32-16, lorsqu'on évoquait l'Iran et l'éventualité d'une frappe américaine, il était venu nous dire avec toute sa passion, toutes ses convictions, qu'il fallait intervenir pour mettre fin au régime des Mollahs. Il, c'est Eshan, qui est avec nous, commercial à Paris, qui est arrivé en France à l'âge de 12 ans, 13 ans, c'est ça. Bonjour Eshan.
Bonjour à tous, très content d'être là.
Parle bien au micro Eshan. Avant de parler de l'Iran, quand même, c'est un peu copain d'avant dans les grandes gueules. Oui. Parce que Eshan retrouve un camarade de classe. Oui. Quand vous êtes arrivé en troisième à Paris, vous avez débarqué dans un lycée catholique privé.
Et un lycée très chic, hein, il faut le dire. Oui.
Et dans votre classe, il y avait un certain Consigny, Charles.
Oui,
Consigny.
Tout à fait.
Il était comment Charles à 13 ans, 14 ans?
Il me fascinait quand même.
Ah oui, déjà.
Oui, parce que.
Vous voyez.
Parce que c'était. Bon, c'était. On va dire que.
Il la ramenait déjà.
Bon, je vais être caché. Il était entouré des filles, donc forcément.
Il était beau parleur déjà.
Non, il était pas beau parleur, mais c'était quelqu'un de très correct. Je pense. Enfin, là pour être sérieux, c'était quelqu'un. J'ai pas eu l'occasion de devenir vraiment très très ami avec Monsieur Consigny, mais c'était quelqu'un de beaucoup plus mature que toute la classe. Voilà. J'ai l'impression que ça me donnait.
Il est déjà vieux aujourd'hui,
ça,
regarde.
Ça vous rabat votre caquet.
Bah non, mais 70 ans, c'est
pour ça. Un témoignage objectif.
Disons qu'il s'intéressait à des choses que peut-être les d'autres élèves ne s'intéressaient
pas. Voilà, ça, c'est ce qu'on lit, tu vois, en général, dans les biographies de Napoléon.
Voilà, exactement.
Des grands personnages de l'histoire.
Voilà. Il pourra témoigner lorsque Charles sera à l'Élysée. Et Eshan, plus sérieusement, oui. Parce que après le massacre qu'a connu une partie de la population iranienne, cette répression sanglante. Beaucoup d'Iraniens pensaient que les Américains allaient intervenir. D'ailleurs, Donald Trump avait dit prenez vos institutions, Iraniens, j'arrive. Oui. Bon, finalement, il n'est pas arrivé. Il n'y a pas d'intervention militaire iranienne, américaine. On parle plus de négociations avec les autorités iraniennes. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été trahi par Trump?
Si M. Trump n'intervient pas, au moment venu, oui. À ce moment-là, oui, parce qu'en effet, comme vous avez dit, nous avons été très à l'écoute de l'Occident, parce que notamment les États-Unis, parce que c'est eux qui avaient pris la main sur le sujet. Et en fait, tous les jours, on écoutait les informations, on écoutait tout ce qui se passait en fait. Du coup, parce que les médias iraniens, nous, on n'écoute plus trop, parce qu'on fait plus confiance. Tout est mensongère. Et puis, du coup, on se fie à ce qu'on entend à l'extérieur. Maintenant, nous avons de la chance parce que nous sommes à l'extérieur. Mais les gens qui sont en Iran, ils n'ont même pas cette chance. Et c'est vrai que si M. Trump n'intervient pas, juste parce qu'il nous avait demandé de sortir et de continuer le combat, je pense que ça serait une forme de trahison, en effet.
Vous avez eu des témoignages de ce qui s'est passé sur place? Vous avez des retours maintenant?
Oui, mais beaucoup plus tard, du coup, parce que l'Internet était coupé. J'ai peu de famille en Iran, mais le peu qui reste, nous avons réussi à prendre contact avec eux par des différents moyens, enfin, comme on a pu. On a acheté des cartes et prépayé, enfin, ce genre de choses. Donc, c'était très compliqué. En fait, c'est même pas le massacre, parce que nous, on entend parler des massacres, mais c'est même après le massacre. Ça veut dire qu'on entend des choses qui sont, enfin,
quoi, par exemple? Donnez-nous un exemple.
Je vais vous donner un exemple. Par exemple, en fait, le régime, il contacte, les personnes qui vont chercher les corps, les personnes qui sont mortes. Le régime, en fait, il leur met la pression. Il leur demande soit d'accepter, par exemple, je vous donne un exemple, que leur fils, leur fille a travaillé avec des agents de Mossad. Ou alors il était en lien direct avec les États-Unis. Ou alors tout simplement, c'était un espion. À 17 ans, 18 ans, c'est un peu compliqué, mais ils veulent faire croire ça aux gens. Et en fait, ils disent ça, soit vous l'acceptez, soit on vous rend même pas le corps. Ça veut dire que vous pouvez même pas enterrer.
Un chantage.
Voilà. Vous pouvez même pas enterrer
Pour récupérer le corps de son fils ou de
exactement.
Sa fille.
Exactement.
Pour accepter la propagande.
Ou alors ils demandent, par exemple, des milliers d'euros pour soi-disant les réparer tout ce qui a été cassé.
Donc, ce sont des jeunes qui sont à la morgue.
C'est plus des jeunes, oui. C'est beaucoup.
Et ces chiffres qui sont donnés, 30 000.
Honnêtement, c'est difficile de s'engager sur les chiffres. Je suis pas quelqu'un. Je vais vous dire, j'ai entendu telle chose ou telle chose, mais Je vous parle juste de mon expérience de moi-même et de mon entourage. Et connaissant le régime islamique en Iran, ça peut être que pire. Ça peut être que pire. Ça... En fait, ils n'ont jamais eu cette peur, parce qu'il y a eu des manifestations, notamment pour Mahsa Amini, pour la liberté. Il y a toujours eu des manifestations. Sauf que c'est récemment, c'est lors de cette dernière manifestation qu'il y a eu vraiment un nom de remplacement. Les gens ont demandé à Khamenei de dégager. Donc ça, c'est vraiment la première fois.
Le pouvoir a eu peur,
exactement.
Comme jamais.
Jusqu'à maintenant, c'était plus pour le hijab, c'était plus pour la liberté d'expression, c'était pour les journalistes, c'était pour Mahsa Amini, c'était pour des morts, des contrôles. Mais maintenant, on est arrivé à un stade où les gens, ils crient carrément le.
Mais il y a le.
La mort du guide.
Il y a le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Et puis, il y a les gardiens de la révolution.
Ah, oui, bien sûr.
Qui sont partout dans le pays, oui. qui tiennent le pouvoir. Ils sont 200 000, 300 000.
Je pense qu'ils seront, même plus, peut-être.
Oui. Ouais, mais comment faire en sorte que eux-mêmes ne soient plus le pouvoir à côté du pouvoir?
En fait, si vous voulez, le guide suprême en Iran n'a plus la place d'un guide. Lui, c'est devenu un dieu pour les idéologistes islamiques. C'est lui. Après, peut-être, il y a le dieu, il y a d'autres personnes, lui, c'est vraiment le top de la planète.
C'est la figure.
C'est le sauveur du monde. Et chose que je vais vous dire, c'est très important, parce que moi, je peux vous assurer que si on n'arrête pas le régime islamique en Iran, ce virus cancérogène va se propager partout dans le monde. Partout. Notamment en Europe, en France.
L'islamisme.
Islamisme et extrémisme.
Mm-hmm.
Et toutes ces idéologies
d'intolérance.
Voilà. En fait, c'est même pas de l'islam. C'est des idéologies qui sont plus à la mode, quoi. C'est des idéologies de Moyen-Âge, quoi. Et j'ai peur que la France, justement, ou en Europe, on recule. Ça veut dire on recule et on retourne au...
Est-ce que vous avez compris la position française?
Vous avez d'autant plus raison que ce travail, c'est déjà le travail qu'a fait la République islamique d'Iran depuis 79.
Ah oui,
parce
bien
que
sûr.
La République islamique d'Iran, avec différents proxys, le Hezbollah, c'est pas un proxy qui est né hier, ça fait longtemps qu'il le travaille, etc. Mais face à cet islamisme chiite qui avait réussi à imposer cet islam politique que les sunnites rêvaient d'imposer, c'est à ce moment-là que dans les années 80, fin des années 80-90, les Saoudiens ont sorti le wahhabisme, ont ressuscité le wahhabisme pour dire l'intégrisme, le fondamentalisme islamiste sunnite, il existe aussi. Et en fait, dans le monde entier, les diasporas musulmanes et les migrations musulmanes, elles se sont trouvées prises en étau entre le modèle chiite de la République islamique d'Iran, qui était quand même la seule réussite de l'islam politique, et le wahhabisme, qui lui aussi a commencé à transformer de l'intérieur un islam qui jusque-là était un islam tranquille, que vivaient tous les musulmans. Donc en fait, c'est pour ça que vous avez complètement raison. Dégommer la pieuvre, la tête de la pieuvre, c'est essentiel, parce que s'être attaqué au Hezbollah, au Hamas, aux Houthis, c'est une chose, mais il faut taper la tête de la pieuvre. Et la tête de la pieuvre, elle a des effets jusqu'ici. On le sait, il y a eu des enquêtes. L'ambassade d'Iran en France, elle est tenue par des gardiens de la Révolution qui sont des espions et qui sans doute même auraient graissé des pattes dans le milieu politique français. Donc il faut absolument dégommer ces gens-là. Est-ce que vous pensez justement, vous, que le fait d'inscrire les gardiens de la Révolution enfin, sur la liste des organisations terroristes, ça peut avoir un sens politique ou c'est juste du symbole? Pour l'après, pour le jour d'après qui va arriver.
Déjà, c'est trop tard. Ça, je pense que il fallait le faire beaucoup plus tôt. Bon, on va prendre l'exemple, c'est jamais trop tard. Mais je pense qu'en fait, les gardiens de la Révolution, ou les pastoranes, enfin, tous ces gens-là, maintenant, ils savent contourner. Ils savent contourner tout. Pendant longtemps, il y avait des embargos.
Mm-hmm.
Sauf que le fils du guide suprême, là, récemment, on a entendu, il a presque 100 millions
de dollars
d'appartements à Londres.
Mais vous savez que l'embargo est contourné.
Il en a 95 milliards.
L'embargo est bien contourné.
Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si les négociations entre les États-Unis et l'Iran se déroulent à Mascate, qui est dans le golfe d'Oman, parce que c'est Mascate qui est le territoire qui aide les corrompus politiques iraniens à vendre le pétrole en Chine et à contourner l'embargo. Mais pour revenir un peu sur la question d'Olivier, on voit que Donald Trump, en plus, a fait une déclaration ce matin, laissant entendre que les négociations avançaient bien. Donald Trump est aussi, même peut-être plus intéressé par le fait que les Chinois achètent le pétrole iranien plutôt que les Américains malgré l'embargo. Il y a la question de la déception si Trump n'agit pas, mais que pensez-vous de la position de la diplomatie française? Vous qui êtes un Iranien qui vit en France, n'êtes-vous pas dépité de voir cette impuissance manifeste?
Je suis déçu. Tout simplement, c'est le mot que je peux dire. Nous, on comptait sur la France, on comptait sur... Sachant que la France était, entre autres, on va dire, un moyen pour Khomeini de venir en Iran. Les Iraniens, ça on en veut beaucoup à la France.
Vous l'avez jamais oublié, c'est
voilà. Ça on en veut beaucoup à la France. On va dire que c'était le moment pour que la France se rattrape.
Après, a-t-elle vraiment des leviers, la France?
Là, est-ce que vous espérez une intervention étrangère? Est-ce que vous ça vous auriez vu d'un bon œil que les Américains interviennent purement et simplement et brutalement? Comme ils ont pu le faire par le passé, pour le meilleur et pour le pire, parce que on a vu que parfois ça a pas donné grand chose. De même, la France, quand elle est intervenue en Libye, on a sans doute évité des bains de sang, mais après derrière on a laissé un pays en lambeaux. S'il y avait une intervention étrangère pour faire cesser les massacres en cours en Iran, est-ce que vous pensez que derrière la société civile et le monde politique iranien seraient suffisamment organisé pour que le pays ne bascule pas dans le chaos, mais parvienne à convoquer des élections ou au moins que quelqu'un de légitime prenne le pouvoir, le monarque en exil, que sais-je.
Alors, comme j'ai dit aussi la dernière fois que j'étais sur le plateau de BFM, c'est très difficile, c'est pas facile de demander à un étranger d'intervenir chez vous, de vous aider pour vos problèmes de chez vous, de personnel. En tant que patriote, voilà, c'est pas facile. Mais on va dire que l'Iran est constitué de plein de tribus différentes. Ça fait des milliers d'années qu'ils vivent sous le même toit, on va dire. Et on n'a jamais eu besoin de quiconque pour être unis.
Exactement.
On a toujours eu des problèmes sociaux, politiques, des problèmes économiques, comme partout. Sauf que, au moment difficile, les Iraniens, ils ont su rester unis. Et ils ont su rester unis.
Et patriotes.
Notamment lors de la guerre de l'Irak. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient encore contre la révolution, mais ils ont quand même pris des armes, ils ont quand même défendu le pays. Donc, et on est arrivé à un stade ils volent notre argent, ils volent notre richesse. On n'a plus rien chez nous. Un pays de 5000 ans de civilisation, l'une des premières civilisations au monde, on se retrouve à même pas avoir de l'eau. Vous vous rendez compte? On vend de l'eau en bouteille à l'Arabie Saoudite. On vend de l'or, tout ce que vous voulez.
Vous souhaiteriez une intervention extérieure.
Oui, alors.
Vous voudriez que les Américains, les Français.
Parce que la différence, c'est quand même que l'Irak, la Libye, la Syrie, etc., c'était des États qui étaient faillibles et qui n'étaient pas des grandes nations.
Exactement.
Comme vous êtes une grande nation. Parce que si demain, l'Iran est libre, l'intelligentsia iranienne, c'est quand même, excusez-moi, je veux pas être méchant avec les Irakiens, mais enfin, c'est quand même un autre niveau que les Irakiens ou que les Jordaniens, etc. Vous êtes une grande civilisation, un grand peuple.
Mais qui pour faire la transition alors? Le fils du chat?
En fait,
juste
je voulais.
Pour la transition.
Oui, juste pour la. Même lui, il le demande en fait.
Oui.
Nous, on n'est pas pour une monarchie, on n'est pas pour. En fait, on ne sait même pas pour le moment. Ça veut dire qu'on sait ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas ce qu'on veut. Ça, c'est très important. Et c'est peut-être ça qui pose problème.
C'est peut-être la faiblesse de ce mouvement.
Parce que les gens, en fait, si vous voulez, on arrive à un stade, on est en train de vivre chez les fous, et du coup, on veut juste, échapper.
Si Trump passe un accord, il va passer un accord avec le pouvoir en place en Iran, peut-être qu'il obtiendra la désescalade nucléaire et le renoncement du pouvoir en place à l'arme nucléaire, en tout cas peut-être une truc de façade, un moratoire, enfin que sais-je.
Que Barack Obama avait obtenu et que Trump avait défait.
Mais ça, pour vous, ça n'a aucun intérêt. Parce que ça maintiendrait au pouvoir ceux qui sont en place. Donc vous, votre intérêt, c'est qu'en fait les négociations échouent et que Trump effectivement envoie des avions pour bombarder les sites gouvernementaux et militaires iraniens.
Avant la guerre
et la France devrait le faire aussi d'ailleurs.
Oui.
Avant la
oui.
guerre des 12 jours, Trump était déjà soi-disant en train de négocier. Tout le monde pensait qu'il négocierait et dimanche matin, paf, il a tapé.
Oui, mais j'aimerais bien juste ajouter deux choses. Déjà, par rapport à l'accord, personne n'y croit à l'accord. Parce que l'accord, si c'est signé, c'est la mort du régime islamique. Ils doivent reconnaître l'Israël. Ils doivent arrêter les missiles. Ils ne vont jamais le faire. Ils sont là pour ça. C'est les piliers de la République islamique. C'est comme si vous demandez à la République islamique de laisser les femmes se balader comme elles veulent. C'est la mort pour eux. Donc ça, déjà, j'y crois pas. Deuxième chose, il y a plusieurs manières d'intervenir dans un pays. Nous, ce qu'on demande aux États-Unis, à la France, à l'Allemagne, à tout ce que vous voulez, c'est d'aider le peuple. Nous, on ne demande pas...
L'armée ?
Voilà, on ne demande pas...
Non, mais vous demandez...
Non, ni l'armée, parce que même l'armée, elle est corrompue. Même l'armée, elle est corrompue.
Non, c'est pas ça que je veux dire. Est-ce que vous demandez qu'on arme le peuple ?
Exactement. Ça, pour libérer l'Iran, il y a deux choses. Il y a deux solutions. Soit armer le peuple, soit armer le peuple. Tout simplement. On ne peut pas faire autrement.
Là, comment est-ce qu'on peut armer le peuple quand on a deux armées, l'armée iranienne corrompue, comme vous dites, et l'armée des Pasdaran, qui est complètement fanatique et qui, là, a massacré les manifestants comme jamais. Donc aujourd'hui, même, je veux dire, si demain, parce que des agents sur place, à part le Mossad, il n'y en a pas, parce que même la CIA, ils ne sont pas sur place. Oui. Les seuls agents, on va dire, de services secrets qui existent, qui seraient sur le sol iranien, c'est le Mossad. Ce n'est pas les agents du Mossad qui vont aller leur donner des armes.
C'est
donc,
sûr.
Comment faire
c'est
pour
sûr.
Donner les armes.
Mais juste pour vous dire quelque chose, quand je demande d'armer le peuple, c'est de mettre la peur entre les Pasdaran.
Ah oui,
eux, ce sont des gens qui croient en guide suprême. S'ils voient la faiblesse de leur côté, s'ils voient qu'ils sont en train de mourir, s'ils sont en train de perdre leur vie pour ça, je peux vous dire que c'est des gens très très peureux. Hein. C'est pas des gens.
Donc vous pensez par exemple qu'il faudrait taper le guide suprême,
Ça déjà c'est la première chose.
Il y a un autre scénario.
Et c'est un soulagement.
Vous savez qu'il pouvait tuer le guide suprême dans la guerre des 12 jours. Non. Il l'avait en ligne de mire et Trump a dit non. Hein.
Il y a un scénario. Exactement. Il y a un scénario qui est possible, c'est la révolution de palais, révolution de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on met de côté les plus radicaux et on met un pouvoir plus souple. C'est possible.
Mais le problème, c'est déjà en cours. Il y a Moussavi, il y a Karoubi, je ne sais pas si vous connaissez, qui ont été en prison jusqu'à maintenant. Ils sont en train de prendre des ailes pour revenir au pouvoir, soi-disant démocrates. Sauf que ces gens-là, ils ont aussi du sang sur les mains. Ça fait des années qu'ils sont calmes parce qu'ils sont en prison. Mais il y a quelques années, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais vu, lors des manifestations des étudiants à Amir Kabir en Iran, ils ont jeté tous les étudiants du toit des immeubles. Tous les ingénieurs, on en a perdu des milliers d'ingénieurs là-bas. Parce que c'était une fac d'ingénierie. Et c'était ces gens-là qui étaient au pouvoir. Ils vont dire quoi maintenant aux gens ?
Oui, mais enfin, regardez, en Syrie, merci. On a un ancien djihadiste d'Al-Qaïda qui maintenant se met un costume cravate et il est tout gentil, soi-disant.
Merci à Eshan, donc, que l'on avait écouté attentivement la semaine dernière au 32-16, qui est venu les GG évoquer la situation en Iran et retrouver son ancien camarade de classe, Charles Consigny. Merci, Eshan. On a posé la question, est-ce que Donald Trump, les États-Unis doivent intervenir ? Ce que vous en pensez, c'est un oui aux deux tiers, à 61%.